Nzamba.
Nzambira samirana. Vendredi 7 mai 2021. Bienvenue mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de la radio Nzamba Gatekakawe. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française à la présentation Alexandre Nyungeko. Et c'est avec plaisir de vous retrouver dans cette édition dont voici d'abord les grandes articulations. Prononcé aujourd'hui du jugement rendu contre l'honorable Fabien Banchiganino, un jugement qui montre encore une fois à quel degré la justice burundaise est prise en otage par les autorités du pays, selon les avocats. Un conflit à propos d'un terrain appartenant à l'ambassade du Burundi à Kinshasa divise le Burundi et la République démocratique du Congo. Il faudrait privilégier une solution diplomatique entre les deux pays pour éviter toute forme d'hostilité, selon un ancien représentant du peuple. Le manque de fonds d'entretien ainsi que de fortes pluies de ces derniers jours sont les causes de l'effondrement des pistes et ponts observés dans certaines régions du pays, nous dira un expert ingénieur en génie civil. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Un an de prison et une amende de 100 000 francs burundais, c'est la peine que le tribunal de grande instance de Ntahangwa vient de prononcer à l'encontre de l'honorable Fabien Banchiganino. Cette condamnation montre en suffisance que l'homme est innocent au regard des infractions qui lui étaient reprochées selon Maître Lambert Nigarura. Cet avocat trouve que le jugement rendu montre encore une fois à quel degré la justice burundaise est prise en otage par les autorités du pays. On l'écoute.
En faisant une analyse, en lisant le jugement, surtout les infractions qui ont été reconnues contre Fabien Banchiganino et la peine qui a été prononcée et qui sera appliquée, c'est noir sur blanc que Banchiganino est détenu arbitrairement. Ça démontre à suffisance qu'il s'agit d'un dossier purement politique. Visiblement, le tribunal n'a pas trouvé des arguments ou des motivations suffisantes et n'a pas non plus eu le courage de le relaxer. Et cela aussi est une preuve que la justice est tout simplement prise en otage. Chaque fois qu'un citoyen, un simple citoyen ou un citoyen qui ne partage pas les mêmes avis que le régime reste en prison injustement, même une seule nuit, c'est une injustice et c'est une honte pour la justice burundaise. Et cela démontre que la justice burundaise est loin d'être indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis du régime en place au Burundi.
Rappelons que l'honorable Fabien Banchiganino avait été élu dans la circonscription de Bubanza pour l'exercice 2015-2020. Il a été arrêté à son domicile au mois d'octobre de l'an dernier. Le parquet de Ntahangwa l'accusait de rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sécurité de l'État. Les défenseurs de droits de l'homme n'ont cessé de dénoncer un procès qui cachait mal l'atteinte à la liberté d'expression. Depuis ce jeudi, des difficultés s'observent sur les déplacements entre la ville de Bujumbura et les provinces du sud du pays. C'est la conséquence de l'effondrement d'un pont reliant les deux provinces passant par la route Bujumbura-Arumonge. Les habitants et passagers qui empruntent cette route craignent la hausse des prix des produits de première nécessité. Le point signé Blaise Nijimbele.
Depuis l'après-midi de ce jeudi, s'observent deux catégories d'usagers de la même route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumonge. Selon les sources de la radio Nzamba, ceux qui partent de Bujumbura doivent s'arrêter à Karonge, une localité située en commune Kabezi de la province Bujumbura. Ceux qui continuent plus au sud descendent les véhicules pour franchir la rivière Kilasa à pied et prennent des bus qui les attendent de l'autre côté de la zone Gitaza, en commune Muhuta. Les deux localités de liaison sont séparées par la rivière Kilasa, dont le pont s'est effondré dans l'après-midi de ce jeudi. Les passagers venant de la province de Rumonge sont inquiets. Le prix du ticket du transport a été revu à la hausse. Alors qu'on payait normalement 3000 francs jusqu'à Gitaza, le prix est passé à 4000 francs pour le même trajet. Il faut ensuite débourser 2000 francs pour avoir rallié la ville de Bujumbura, selon les passagers contactés par la radio Inzamba. Ceux qui ont des bagages doivent payer pour les faire passer la rivière. D'autre part, les grosses quantités de marchandises transportées par des camions, dont le haricot, le maïs et les produits de la Baraudi, sont acheminés par la route Jenda Matana pour en faire joindre Mwenge à partir du centre de la province Bururi. Selon les commerçants, les coûts sont devenus exorbitants. Les habitants de Mwenge craignent une hausse remontée de prix, surtout des produits de première nécessité. Tous demandent que son pont soit réhabilité le plus rapidement possible pour que le transport reprenne sur cette route. Une source proche des autorités provinciales de Mwenge, jointe par Radio Inzamba, affirme que ces dernières ont déjà soumis le cas au chargé des infrastructures publiques pour prendre des dispositions nécessaires le plus tôt possible.
Merci Blaise. Et les analystes et experts décortiquent cette situation. Ainsi, de fortes pluies et le manque de fonds d'entretien sont les causes de l'effondrement des pistes et ponts observés ces derniers jours dans certaines régions du pays. C'est l'analyse d'un expert ingénieur en génie civil après l'écoulement du pont Karonge en commune Kabezi de la province de Bujumbura. Pour lui, les pistes et les ponts sont frappés par une forte érosion. Les pouvoirs publics doivent être interpellés. On l'écoute.
Nous observons une érosion très très poussée des cours d'eau, allant de 2, même à 5, 10 mètres dans les régions essentiellement de Limbo et d'Imumirwa. Alors, s'il n'y a pas la protection de ces rivières contre ces érosions, il y a toujours un danger imminent sur les ponts essentiellement, parce que les eaux emportent la terre jusqu'à entamer les fondations de ces ponts, et à la fin on observe le système de cassure ou des ponts qui sont emportés par les rivières. La raison majeure, c'est à cause des pluies, mais aussi à cause du manque d'entretien de ces ouvrages. Parce que les régions montagneuses de Limbo et de Mirwa sont exposées à de fortes érosions. Pour les pistes et ponts, il n'y a plus de fonds d'entretien. C'est ce que je crois. Sinon, s'il y avait un fonds d'entretien, chaque fois, il y aurait observation des ouvrages et il y aurait protection à temps de ces ouvrages afin qu'il n'y ait pas ces destructions qu'on observe aujourd'hui.
Et de l'avis d'un économiste, le Burundi a besoin de moderniser des infrastructures routières pour relancer son économie. C'est ce que dit Faustin Ndikumana, qui propose au gouvernement de définir sa stratégie de mobilisation des fonds, et cela doit passer par la coopération. Faustin Ndikumana.
Le Burundi a besoin d'infrastructures à moderniser, donc d'infrastructures à reconstruire pour que le soutien à la croissance économique soit effectif. Or, dans un document sorti par la Banque africaine de développement, on avait dit que le Burundi avait besoin des infrastructures coûtant 6 milliards de dollars pour relancer son économie. C'était déjà en 2009-2010. Aujourd'hui, ça peut même avoir doublé suite à ces ponts, par exemple, qui sont en train de subir démolition directement suite à ces problèmes de changement climatique. Donc, il faut que le gouvernement sache à concevoir une stratégie de mobilisation des fonds. Et c'est sur trois axes. Il y a la coopération et il y a des exigences par rapport au financement de la coopération. Les emprunts auprès des partenaires techniques et financiers. Là aussi, il y a des exigences. L'emprunt auprès des marchés classiques. Il y a des exigences. L'investissement direct étranger, il y a des exigences. Le partenariat public-privé, il y a des exigences. Le gouvernement devra choisir l'un des axes pour disponibiliser les fonds afin vraiment de construire un réseau moderne d'infrastructures. Sinon, comme l'avait entendu même le Premier ministre à l'Assemblée nationale, il avait dit qu'il y a beaucoup de retard dans la mise en application de certains projets de construction des routes suite au retard de décaissement des fonds des bailleurs. Cela dit que si ces fonds ne sont pas là, le gouvernement il est incapable directement d'avoir d'alternative, c'est-à-dire que sa marge de manœuvre reste réduite. Il faut alors attaquer le taureau par le corne, le problème, l'identifier et chercher des solutions concrètes et idoines.
Inzamba. Le manque de sucre au Burundi résulte du manque criant des devises, selon des informations provenant de la Sosumo, la société sucrière du Mosso. Cela a significativement affecté la Société internationale du commerce ITRACOM, qui était chargée de livrer plus de 4000 tonnes de sucre à la société sucrière du Mosso fin avril 2021. Des sources proches de ces deux sociétés révèlent que les attentes d'intervention de la BRB, la Banque centrale, la Banque de la République du Burundi, pour pouvoir débloquer la situation. Le point a signé notre consoeur Alice Akimana.
La société sucrière du Mosso n'a plus la capacité de satisfaire le marché local et doit compter sur le sucre importé. Selon les sources émanant des partenaires de la Sosumo, c'est la compagnie International Trading Company, Itracomonsig, qui a gagné le marché d'importer le sucre, soit du Brésil, du Malawi ou de la Zambie, pour compléter la quantité dont la Sosumo a besoin pour satisfaire le marché burundais. Pour l'exercice 2021-2022, Itracom devrait livrer 30 000 tonnes à la Sosumo en deux tranches, dont 15 000 tonnes pour 2021. Mais jusqu'en avril de cette année, Itracom aurait livré 11 000 tonnes à la Sosumo. Les autres 4 000 tonnes n'auraient pas été livrées par manque de devises. Une question indépendante de la volonté de la société Itracom selon les mêmes sources. Le ministère du Commerce aurait saisi la Banque de la République du Burundi pour permettre à Itracom d'importer la quantité restante. Ces sources précisent qu'en temps normal, la Sosumo produit à peine 20 000 tonnes par an qui ne parviennent plus à couvrir les besoins en sucre dont le pays a besoin. Selon les explications des agents de la Sosumo, une bonne partie de ce sucre est utilisée dans diverses nouvelles industries alimentaires, surtout les boissons. D'autres sources parmi les commerçants du sucre ajoutent que parmi eux, il y en a qui profitent de cette crise pour spéculer en camouflant une certaine quantité du sucre pour la revendre aux détaillants à un prix exorbitant. Ces derniers sont à leur tour contraints d'augmenter le prix au kilo, rendant cette denrée hors de prix pour les familles aujourd'hui. Nous avons essayé de contacter l'administrateur directeur général de la Sosumo et les autorités de la BRB, mais sans succès.
Merci Alice. Parlons cette fois-ci de ce comportement inadéquat des enseignants. Les parents devraient dénoncer avec énergie les enseignants qui violent les élèves alors que ces derniers devraient les éduquer. Ce sont les propos d'Elali Niwizi qui fut représentante du syndicat des enseignants, le STEB. Elle réagit suite à plusieurs cas de viol commis par les enseignants, surtout dans certains établissements de la province de Makamba. Elali Niwizi demande au ministre en charge de l'éducation de suivre de près cette question afin que les auteurs soient traduits en justice. On l'écoute.
C'est déplorable et écœurant qu'un éducateur puisse se comporter d'une manière à entretenir des relations incestueuses avec ses élèves. C'est de l'inceste parce que ce sont ses enfants. Et que, surtout, après avoir commis ces forfaits, l'administration scolaire le protège. Ça, c'est déplorable. C'est pourquoi j'interpelle le ministère en charge de l'éducation, avec toutes ces structures décentralisées, déconcentrées, de prendre ses responsabilités. Le ministère de l'éducation, c'est lui le premier répondant devant l'éducation des élèves, mais aussi devant l'éducation des éducateurs. Quand les éducateurs ne sont pas éduqués, il n'y a rien à attendre des élèves. Que ce soit lui-même qui porte le cas devant la justice au lieu d'exposer les parents à la vindicte de ses malfrats. Mon appel aussi s'oriente vers l'administration locale. L'administration locale est défaillante. Et cela arrive selon les périodes et ne devrait pas protéger ses enseignants. J'interpelle aussi les parents. Les parents ne doivent pas rester dans le rôle de plainte, dans le rôle de victime inactive. Les parents doivent jouer leur rôle. Ce sont leurs enfants qui souffrent. Ce sont les parents qui souffrent et c'est toute la communauté. Les parents d'élèves en solidarité doivent agir à travers le comité de gestion de l'école, qui est un comité qui est en charge de l'éducation des enfants, de la protection. Parmi leurs responsabilités, il y a la protection du droit à l'éducation. Les parents doivent user de ce cadre où ils rencontrent les enseignants, les élèves et la direction, ainsi que l'administration, pour parler de l'éducation des enfants. J'interpelle aussi les syndicats des enseignants. Quand l'éducation des enfants est menacée et qu'il y a une complicité entre les coupables et l'administration, et ce sont les syndicats qui doivent être là pour protéger la profession. La protection de la profession ne peut pas être faite par les parents, par le ministère, avant que les enseignants seuls puissent prendre leurs responsabilités.
Au chapitre des réfugiés, les réfugiés d'Ikam Mahama au Rwanda vivent actuellement une situation compliquée. Ils viennent d'être mis dans des catégories et ceux qui se trouvent dans la troisième catégorie ne sont plus assistés. Avant cette mesure, ils bénéficiaient de 3040 francs rwandais par mois. Ils indiquent qu'ils mourront de faim si rien ne change. Le représentant de ces réfugiés demande au Haut Commissariat pour les réfugiés et au Programme alimentaire mondial de ne pas abandonner les réfugiés de Mahama. Les détails avec Joséphine Jones-Muziman.
Ces catégories ont été déterminées en tenant compte de la taille de la famille, des personnes qui la composent et en tenant compte du mode de vie du réfugié. Ceux de la première catégorie auront 60 080 francs rwandais par mois, ceux de la deuxième catégorie recevront 3 040 et les réfugiés de la troisième catégorie ne seront pas assistés sauf en soins de santé et pour les enfants qui continueront d'étudier gratuitement. Cette mesure a été mal accueillie par ces réfugiés de Mahama, surtout de la troisième catégorie. Ils indiquent qu'ils mourront de faim d'ici peu.
Moi qui suis dans ce camp de Mahama et placé dans la catégorie 3, je ne vois pas comment sera mon avenir. Seulement, je ne vais pas retourner au Burundi puisque ceux qui ont tué les miens sont toujours là en liberté. Je n'oserais pas retourner dans un pays sans justice indépendante où règne la loi de la jungle. Que l'OSR nous assiste comme cela se fait dans le monde entier. Cela relève de ses obligations. Vivre dans son camp sans ratio, c'est impossible. C'est vraiment triste.
Le représentant de ces réfugiés de Mahama, révérend Jean Bosco Okwibishatse, comprend l'inquiétude de ces réfugiés. Il indique qu'ils vont faire le plaidoyer, à commencer par le président de la République, qui héberge ces réfugiés burundais.
C'est un problème très sérieux. Nous qui vivons grâce aux aides du HCR et du PAM, pour manger même si ce n'était pas suffisant, quand le peu qu'on bénéficiait ne vient pas, c'est la catastrophe. Pour le moment, nous sommes en train de faire un plaidoyer en commençant par le président de la République, l'OACR et le PAM et d'autres âmes charitables pour qu'ils puissent venir en aide à ces réfugiés avant qu'ils ne meurent de faim ou d'éviter que certains ne décident de rentrer malgré eux à cause de ces problèmes.
Avant le rapatriement, le camp de Mahama comptait plus de 60 000 réfugiés. Actuellement, plus de 20 000 sont rentrés dans leur pays natal, comme nous l'indique Kwibishatse.
Merci Jones. Le ministère burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement a adressé une correspondance à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi à propos d'un litige d'une parcelle 6 à Kinshasa appartenant à l'ambassade du Burundi. Son ministère rappelle à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi que si rien n'est fait d'ici le 31 décembre 2021, le gouvernement burundais se verra dans l'obligation d'appliquer le principe de réciprocité sur les terrains appartenant à la République démocratique du Congo au Burundi. Pour Emmanuel Nyengurutse, ancien sénateur et juriste de formation, il faut plutôt une solution diplomatique entre les deux pays pour éviter toute forme d'hostilité. Et détail dans ce reportage signé Trifine Kaniwabo.
À l'origine, c'est un patrimoine immobilier appartenant à l'État burundais qui a été spolié à Kinshasa par la société Congo Future. Selon les informations que dispose la radio Inzamba, c'est en 1985 que les deux États, le Burundi et l'ex-Zaïre, se conviennent de procéder aux échanges de terrains pour leurs ambassades. Le gouvernement du Burundi accepta de donner à la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, trois parcelles dans le quartier Rohero 1 de Bujumbura. En guise de compensation, le gouvernement zaïrois à l'époque accepta de mettre à la disposition du gouvernement burundais trois parcelles également à Kinshasa. Deux parcelles dans le quartier de la Gombe, une troisième dans la commune d'Ongaliema. Selon les mêmes sources, en 1998, suite à la guerre d'agression, les diplomates burundais accrédités à Kinshasa ont été rappelés par leur pays, laissant derrière eux tous les patrimoines immobiliers. Presque 10 ans se sont écoulés jusqu'à ce que, en 2009, quand les deux pays décident de la reprise de leurs relations diplomatiques et la réouverture de l'ambassade du Burundi à Kinshasa, les nouveaux diplomates burundais se rendent compte qu'une des trois parcelles du gouvernement burundais à Kinshasa a été spoliée, celui de la Gombe, sur avenue 24 novembre. Depuis 2009, cette question a été portée à la connaissance des autorités congolaises. L'ancien président Joseph Kabila aurait alors insisté pour que le Burundi soit remis dans ses droits. C'est dans ce cadre qu'une autre parcelle sera octroyée au gouvernement burundais à la Gombe. Mais les diplomates burundais finiront par se rendre compte qu'il s'agit d'une parcelle litigieuse. Cela fait 10 ans que le Burundi attend d'être remis dans ses droits. Les autorités burundaises ont alors fait savoir à travers cette note verbale adressée à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi que si rien n'est fait d'ici le 31 décembre 2021, le Burundi se verrait dans l'obligation de saisir une des parcelles de la République démocratique du Congo au Burundi. Selon Emmanuel Nyengurutse, l'ancien sénateur et juriste de formation, il faut une issue diplomatique entre les deux pays pour éviter une éventuelle hostilité au lieu d'appliquer ce principe de réciprocité.
Le principe de réciprocité est valable souvent dans les relations internationales, mais pour un conflit pareil, il devait y avoir un cadre diplomatique entre les deux pays, une solution diplomatique. Les ambassadeurs des deux pays devraient s'asseoir sur une telle question. Avoir cette correspondance, il s'agirait d'un acte d'hostilité, une menace, visiblement. Il y aurait d'autres antécédents.
Une fois ce principe de réciprocité qu'envisage le Burundi est appliqué, les biens de la République démocratique du Congo visés sont le bâtiment abritant l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi situé en plein centre-ville de Bujumbura, le Hiro 1, l'ancienne résidence de l'ambassadeur du Zaïre au Burundi située dans le quartier le Hiro 1 sur le boulevard du 28 novembre à côté de la nociature, la résidence actuelle du chargé d'affaires située dans le quartier Kilili, la résidence qui abritait l'ancien centre culturel zaïrois situé en plein centre-ville, les deux résidences de la République démocratique du Congo dans le quartier populaire dénommé Bouiza sur la 2e et la 3e avenue.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Alexandre Nyungeko à la présentation. Je remercie à vous tous, auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Agathe Kakwawe pour votre fidélité. Merci également aux consoeurs et confrères pour leur contribution. Excellente soirée ou journée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.